Voilà, c'est correct. Alors, l'épître de Jacques, okay, j'ai pris comme verset ou comme thème l'homme, l'auditeur devant le miroir. Est-ce que ça, je peux avancer ça là? Il faut que ça reste à côté de moi. C'est beau comme ça? L'auditeur devant le miroir. Et j'ai appris par votre pasteur qu'un groupe d'hommes, justement, était en train ou avait débuté le livre « L'homme devant le miroir ». Alors, je ne savais pas. C'est le Seigneur qui a dirigé ça pour arriver avec Jacques. Et j'aimerais vous inviter à prendre deux versets ce matin avec vous. Jacques 1, 23 et 24. J'aimerais vous inviter à ouvrir dans cette magnifique épître de Jacques. Et comme j'aime dire également, si jamais vous voulez mettre au test votre vie spirituelle, si vous voulez tester votre vie spirituelle, lisez l'épître de Jacques, décortiquez l'épître de Jacques, scrutez l'épître de Jacques. C'est une des seules épîtres où, dès le départ, hein, c'est une épître pratico-pratique. Il n'y a presque pas de doctrine dans l'épître de Jacques. Et s'il y en a, il faut fouiller pour les découvrir. Il y en a, laissez-moi vous dire ça, il y en a. Mais il faut fouiller. Alors, c'est une épître souvent qu'on n'aime pas lire. C'est pour ça que je vous dis, si jamais vous voulez mettre votre vie chrétienne, votre vie de tous les jours au test, lisez l'Épître de Jacques. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous deux versets, les versets 23-24 du chapitre 1, où Jacques nous dit ceci, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. » Et si on veut prendre ce texte-là et traduire littéralement à partir du texte original grec, ça se lit comme ceci. « Pour quiconque est un auditeur de la parole et non un réalisateur, celui-ci est comme un homme qui prend des notes concernant son visage de Genèse. » Et pourquoi je l'ai mis là? Pour qu'on puisse comprendre le contexte un peu ce matin devant nous. Une grande partie de l'enseignement de Jésus, vous allez voir, vous avez dû constater ça dans les évangiles, je suis convaincu, une grande partie de l'enseignement de Jésus tout au long de son ministère fut d'enseigner des choses en utilisant des illustrations de la vie courante. Alors, si vous lisez les évangiles, vous allez voir ça, hein? Jésus, il prend à plusieurs endroits des situations de vie courante. Et souvent, pourquoi est-ce que Jésus faisait ça? Parce que c'était la seule façon que les gens comprennent. Comprenez pas? Bien, ici, là, Jacques fait exactement la même chose. Jacques prend le même modèle. Et Jacques va prendre quelque chose que vous et moi, on utilise régulièrement, quotidiennement, les choses de la vie pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous faire comprendre les versets 23 et 24. D'ailleurs, si on prend juste le verset précédent, et le verset 22, pour être dans le contexte, encore une fois, le verset 22, Jacques nous dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Alors, il faut vraiment qu'on ait en tête là, ce verset-là pour être capable de comprendre les deux autres qui s'en viennent. OK? On est dans le contexte. Et dans le texte qui est devant nous, dans le texte qu'on vient de lire, eh bien, on voit un écouteur, hein? Un homme qui écoute au verset 22. Donc, on a un écouteur qui se tient devant quoi? Devant un miroir. On s'entend? Maintenant, qu'est-ce que Jacques veut nous enseigner? Qu'est-ce que Jacques désire nous enseigner avec cette illustration-là? Vous déjà pensé? Vous êtes-vous déjà arrêté à ça? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Jacques? Et pour moi, il n'y a aucun doute dans mon esprit que les dames sont celles qui utilisent le plus un miroir dans la vie courante. Vous d'accord avec moi? Mon épouse, Mireille, dans notre chambre à coucher, a un grand miroir. Pas un petit miroir juste pour la figure, un grand miroir. Alors Mireille, souvent, vient me voir, elle s'en va dans son garde-robe, tasse les robes, elle prend celle-là, elle la met. Là, ça vient dans la cuisine, puis elle me regarde. Hey, José, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Puis c'est-tu beau, puis c'est-tu bien, puis c'est-tu assez long? Mireille, elle fait ça. Alors là, si j'y dis, il me semble que ça ne fait pas Mireille. Oups, elle retourne dans sa chambre. Elle tasse encore les robes, là, elle se regarde devant le miroir dans sa chambre. Ah, ça, elle s'en vient, puis elle me fait les mêmes parages devant moi. Puis José, qu'est-ce que ça en pense? Wow, peut-être que la couleur ne file pas avec. Ah, OK! Elle retourne dans la chambre, tasse le garde-robe. Là, elle se remet à l'autre robe, une autre jupe. Là, elle se regarde devant son miroir, parce qu'elle a un grand miroir. Hein. Elle se regarde, ça fait tout bien. Elle se regarde comme ça. Elle fait tout ça. Hein. Là, elle vient en cuisine ou dans le salon. Puis José. Je pense que toutes les femmes sont comme ça. N'est-ce pas? Moi, en tout cas, Mireille est comme ça. Et je connais beaucoup de femmes. Mais voyez-vous ce qui est étrange ici? C'est que Jacques s'adresse à un homme et non pas à une femme. C'est ça qui est étrange, n'est-ce pas? Souvent dans la vie, les sœurs, les dames, sont plus ouvertes à l'Évangile que les hommes. C'est peut-être pour ça qu'il s'adresse à un homme. Vous allez voir, vous allez saisir dans la suite du message. Mais souvent, hein, dans mon cas, Mireille, Seigneur m'a cherché avant moi. Elle a traité le Seigneur avant moi. Donc, j'en ai une preuve vivante dans ma vie de couple. Hein. Mais souvent, les dames hein, sont plus ouvertes à manger. Ou même, je dirais que les femmes sont plus ouvertes à vouloir creuser la bonne parole de Dieu. À vouloir la scruter. Soyons honnêtes, les gars. Hein. Souvent, c'est ça. Je ne dis pas que c'est toujours ça. Et encore une fois, mes affirmations sont gratuites. Je ne suis pas écrit dans la parole de Dieu. Vous êtes même pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais là, ce que je réalisais dans mon ministère, c'est ça. Hein? Les femmes sont prêtes. Offrez un cours, là, vous allez avoir 15 femmes pour 5 hommes d'inscrits. Souvent, c'est ça. Hein? C'est ça qui se passe. Et même, je ne sais pas ici, là, il faut croire que ça ne doit pas être comme ça ici, en tout cas. Les réunions de prière, hein? Souvent, il y a plus de sœurs que d'hommes. Ah! C'est pas probable que la personne qui est dans le miroir, là, Jacques, s'adresse à un homme. Il ne s'adresse pas à une femme dans le contexte ici, n'est-ce pas? Et Jacques va utiliser quoi? Le Jacques va utiliser le miroir, et ce miroir-là, c'est le symbole de la parole de Dieu. C'est le symbole de ce que vous et moi en avons. Alors, c'est ça le miroir qui est devant nous ici. Et il utilise l'homme et non pas une femme. Il dit que c'est un homme qui se tient devant le miroir pour démontrer que les hommes passent moins de temps dans la parole habituellement que les femmes. Habituellement, c'est ça qui se passe dans nos vies de couple, dans nos foyers. Moi, j'en ai un miroir également chez nous. Mais il est grand comme mon visage. Je me vois pas tout dedans. Et vous allez comprendre pourquoi tantôt également je vous dis ça. Mais moi, le miroir, il me sert à me raser. Peut-être me trouver beau des fois. C'est comme ça, hein? Mais pas plus que ça. Et est-ce que les sœurs sont plus portées soumises à la parole de Dieu? C'est peut-être ça que Jacques veut nous dire, hein? Donc, il utilise un miroir comme symbole de la parole de Dieu. Et il utilise un homme et non pas une femme. C'est la leçon que Jacques veut nous montrer ici. Celui qui se tient devant le miroir, c'est un homme. Et souvent, dans nos églises, oui, malheureusement, on a plus de sœurs que de frères. Même moi-même, dans mon ministère, combien de fois j'ai enseigné, ça fait longtemps que j'enseigne, et souvent, il y a des hommes qui écoutent, il y a des hommes qui sont là, mais ils ne sont pas d'accord à mettre en pratique l'enseignement de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer. On dirait que nos sœurs sont plus portées à avoir payé le prix. Mais moi, quand j'enseigne, en tout cas, j'ai remarqué ça dans mon ministère. Et je ne sais pas si vous connaissez le mouvement Flamme. Connaissez-vous le mouvement Flamme ici? Oui, hein, Flamme, c'est un mouvement de regroupement, mais une l'association Élise. Et Flamme est venu au monde il y a peut-être 25 ans, 25-30 ans. Et lorsque Flamme est venu au monde, mais à toutes les gens, puis ça continue encore, et, à chaque fois qu'ils font le rencontre Flamme, ils sont entre 200 et 250 femmes. Mais en même temps, la même année, est venu au monde Homme en marche. C'est vous et Homme en marche aujourd'hui? Gros zéro de mort, il n'existe plus. Est-ce qu'on peut comprendre? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi également. Ce n'est pas écrit dans le livre ce que je vous dis là. Mais je constate qu'après 30 ans, Flamme est aussi vivant. 200, 250 femmes, les hommes, ça a tombé en cours de route, zéro, non plus. Là, c'est bon. Alors, c'est pour vous mettre dans le contexte. Maintenant, regardons un premier point. Quel est celui qui écoute? Regardons-le comme il faut, celui qui écoute. Si je vous disais que une personne handicapée mentalement parlant, une personne handicapée intellectuellement parlant, va se regarder dans un miroir et puis, même si elle est sale, même si dans son visage il y a de la saleté, il n'y aura aucune réaction de sa part. Elle se regarde, de la saleté, c'est pas grave, à part. Alors, une personne handicapée intellectuellement parlant, actuellement, c'est ça. Si on regarde dans le miroir, ça s'arrête. Voyez-vous? Mais voyez-vous, ici, là, c'est pas le cas. Je veux juste qu'on comprenne ça. L'homme qui est dans le miroir, c'est pas un handicapé intellectuel. C'est pas un gars qui se regarde dans le miroir et qui comprend pas. Vous allez voir. C'est pas ça qu'on a demandé. Jacques nous dit ceci. Il y a une personne qui se tient devant un miroir. Jacques nous dit que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se regarde. Et la personne qui se regarde, c'est une personne qui est capable de penser, qui est capable de raisonner, qui est capable de réfléchir. Est-ce qu'on veut comprendre le gars qu'il y a là? C'est pas un handicapé intellectuel. Il comprend. L'origine du mot ici, il comprend. C'est un gars qui est capable de penser, qui est capable de raisonner, qui est capable de faire ça. D'ailleurs, le mot original pour décrire cet homme-là, c'est katanounti. Ça veut dire vraiment, là, tantôt j'étais capable de raisonner, mais je renforce mon mot en vous disant, c'est une personne qui est capable de penser sainement, de la bonne manière. Ça, c'est le gars qui est devant le miroir. Je veux vraiment, il faut vraiment qu'on saisisse ce gars-là, qui il est. Hein? Donc, une personne qui est capable de raisonner sainement. Autrement dit, l'homme qui est devant le miroir, c'est un homme qui écoute la prédication, c'est un homme qui comprend la prédication, c'est un homme qui comprend sainement la parole de Dieu, mais il ne veut pas la mettre en pratique. Est-ce qu'on comprend le gars qu'il y a là? Est-ce que c'est pas toi, c'est pas moi des fois, ça? Il ne veut pas la mettre en pratique. Et s'il ne veut pas la mettre en pratique, c'est pas parce qu'il ne comprend pas. Absolument pas, c'est pas parce qu'il ne comprend pas. C'est parce qu'il ne veut pas mettre les efforts demandés par la parole de Dieu. Dieu me demande des efforts. Il ne veut pas. Mais il comprend. Il sait vraiment ce que la parole de Dieu dit. Et même, savez-vous, il va aller jusqu'à où pour se justifier? Il va aller jusqu'à dire, José, je ne comprends pas ce qui a été prêché ce matin. Il va aller jusqu'à dire ça pour se justifier. C'est pas vrai. La définition de l'homme qu'on a devant nous, le bonhomme Katanounti, là, c'est un gars qui est capable de penser, raisonner seulement, puis de tout comprendre. Mais il va aller se justifier jusqu'à dire « Non, non, je ne comprends rien de ce que tu dis, José. Je ne comprends pas ce que la parole de Dieu me dit. » Hey, c'est triste, ça. Je dirais que ça fait pitié. C'est clair comme du cristal que le gars, il comprend. Le gars qui est dans le miroir. Et voyez-vous, mes amis, notre problème, c'est pas la compréhension. Notre problème, c'est notre cœur. On a des problèmes cardiaques, mes frères. C'est ça le problème. C'est un problème cardiaque. Vous connaissez, on connaît tous la parabole dans Luc 10, la parabole du Samaritain, on connaît ça. J'aimerais juste vous inviter à tourner ou à écouter si vous voulez. Juste Luc 10, je vais juste lire les versets 25 à 28. Regardez bien. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui répond, « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Et si vous poursuivez jusqu'au verset 37, pas le verset 37, ce qu'il dit, c'est intéressant, hein? Verset 37, Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. » Autrement dit, comprenait-il là? Combien des fois, nous, on ne veut pas comprendre. Va et toi, fais de même. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Et c'est exactement le point sur lequel Jacques veut frapper ce matin. Exactement le clou sur lequel il veut frapper. Il est en train de dire à toi et à moi que l'homme qui se regarde dans le miroir, il comprend la parole de Dieu. Il la connaît. Il ne peut pas dire qu'il ne comprend pas, c'est pas vrai. Et même, je dirais que l'homme devant le miroir, il comprend sa condition. Il comprend qu'il y a un problème cardiaque. Il comprend ça. Mais il refuse de venir. Alors ça, c'est notre gars qui est devant le miroir. Est-ce qu'il est assez bien écrit? Ça, c'est notre gars devant le miroir. Maintenant, qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il comprend? Voyez-vous, on a vu une expression tantôt, son visage naturel, dans les versets 23-24. Et j'aimerais vous dire ceci, c'est une expression, son visage naturel, qui est très difficile à comprendre. Alors, je vais essayer de la comprendre avec vous ce matin. Mais c'est une expression qui est difficile à comprendre. Traduit, si on veut la traduire d'une façon littérale, ça veut dire ceci, son visage de naissance. D'une façon littérale. Autrement dit, c'est un mot qui veut dire le visage que tu as quand tu viens au monde. Maintenant, cette expression dans la parole de Dieu, dans les commentaires, dans le texte grec, a plusieurs significations. Et je n'ai pas l'intention de passer à travers tout ça ce matin, parce que ça va être long. Je vais juste regarder avec vous. Je vais juste en donner deux significations. Mais avant ça, ce mot naissance-là, c'est le mot Genesis, ça signifie ton visage lorsque tu es venu à l'existence. Autrement dit, lorsque tu es venu au monde. Alors, c'est ça que ça veut dire le mot ici, le visage. Son visage naturel. En français, là, on dirait à ta naissance. On se comprend? Le mot visage ici, c'est ça qu'il veut dire. Et je vous ai dit qu'il y avait plusieurs interprétations. Je vais vous en donner juste deux ce matin pour notre texte. Là. Une première signification, c'est un homme qui se regarde dans le miroir, puis il se rappelle ses premiers jours. Et ça, c'est purement humain. Moi, je me souviens, il me semble que quand j'avais 5-6 ans, je me regardais dans le miroir. Puis je me trouvais beau. Pour vous autres, les gars? Moi, je me trouvais beau. Puis, rendu vers 18-19 ans, Mireille me trouvait beau. Hein? Mais ça, c'est... On se rappelle de ça, hein? On a des photos, je m'en souviens, des photos. Alors, on a des photos. Ça, c'est le plan humain. Ça, c'est la première signification. Mais c'est pas celle-là que je vais regarder avec vous ce matin, c'est la deuxième signification. La deuxième interprétation, c'est le fait qu'il se souvient de sa naissance à sa création. Il se souvient quand il est venu au Seigneur.
Vous souvenez-vous quand vous êtes au Seigneur, il y a X années, Mireille et moi, ça fait 47 ans. Hein? Mais vous souvenez quand vous êtes au Seigneur, vous n'étiez pas zélé. On était super zélé. N'est-ce pas? Wow, c'est nouveau, on était super zélé. Ça, c'est cette signification-là, là, celle qu'on a avec Jacques ici. Hein? On se souvient du but de la création. On se souvient que Dieu nous a créés, pourquoi? Pour lui obéir. On se souvient que Dieu nous a créés pour une raison, afin qu'on puisse lui rendre gloire à chaque jour. Et si ce matin, lorsque tu t'es éveillé, tu t'es rendu compte que tu respirais, mais le Seigneur est en train de dire, « Mon petit gars, ma petite fille, si je te prête la vie ce matin, c'est parce que je veux que tu me glorifies dans tout ce que tu vas faire, penser, dire, agir. » Donc, pense à ça. Donc, c'est ça ici. On se souvient. Il en miroir. Hein? Il s'en souvient. Et il se souvient, en se regardant dans le miroir, là, ce qu'il est censé être. Et toi et moi, nous sommes censés être des ambassadeurs, des ambassadrices de Jésus-Christ. Ce matin. On s'en souvient. Et même, le gars qui est dans le miroir ici, il se souvient de ce qu'il est censé être parce qu'il compare ça à la réalité de sa vie. Puis, il est capable de se dire le moins parce qu'on vous dit tantôt, c'est un gars qui est capable de raisonner seulement, et il se rend compte que dans la réalité de vie, il n'est pas ce qu'il devrait être. Est-ce qu'on comprend? Ça, c'est le gars qui est devant nous. C'est la deuxième interprétation, c'est celle-là qu'on a dans notre texte ici. Donc, les frères, mes sœurs, un homme qui entend, et une femme, hein, parce que ça fait aux sœurs avec, donc je sais que c'est un homme qui est devant le miroir, mais par ricochet, ça fait aux femmes. Un homme qui entend, un homme qui écoute, un homme qui lit la parole de Dieu, savez-vous ce à quoi il ne peut pas échapper? Si tu lis la parole de Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu, tu ne peux pas plaider puis dire « Je ne connais pas le plan original de Dieu pour ma vie. » Tu comptes un mensonge si tu fais ça. Donc, aucun d'entre nous ici ce matin, si on se regarde dans le miroir, puis qu'on va être honnête avec Jacques, puis qu'on va être honnête avec la parole de Dieu, aucun d'entre nous peut dire « Eh bien, je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi ce matin. » L'homme qui est dans le miroir ici, là, exactement ça. Donc, autrement dit, l'homme qui est devant le miroir ne peut pas plaider l'ignorance. Alors, vous demandez quelque chose à vos enfants des fois, puis ça fait la 52e fois que vous y répétez, votre enfant il vous répète, « Ah, je ne savais pas, papa. » Hey, ça fait 52 000 fois que tu le dis. Il plaide l'ignorance, hein? Même chose ici. Mon frère, ma sœur, on ne peut pas plaider l'ignorance parce que on raisonne sainement, on raisonne avec connaissance. Il y a deux parties dans l'Évangile, vous savez ça? La première partie, c'est de croire et la deuxième partie, c'est d'agir. C'est de se conduire en fonction du salut qui nous a été donné. Mais voyez-vous, celui qui écoute va se satisfaire seulement avec la première partie. Alors que celui qui réalise, lui, il va se satisfaire de la première partie et de la deuxième partie. Tu ne peux pas juste croire puis pas agir. Ça se peut pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie, c'est ça. Tu ne peux pas faire ça. Autrement dit, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas jouer à on et off avec ton salut. Tu dois toujours être on. Excusez mon anglicisme, mais je me fais comprendre. Exactement ce que Jacques est en train de nous dire comme message ici. Donc, c'est le message que notre gars a nous passé ici. Maintenant, si on comprend bien le message, si on comprend bien qui il est, mais quelle est l'importance de se rappeler? Quelle est l'importance de se rappeler? Voyez-vous, je répète, hein, le miroir représente la bonne parole de Dieu.
Donc, au verset 23, on a un homme qui se tient devant la bonne parole de Dieu, qui comprend sa condition actuelle en contraste avec le but que Dieu lui a donné à sa nouvelle naissance. Lorsqu'on est venu au Seigneur, ou lorsqu'on vient au Seigneur, comme j'ai dit tantôt, on est chouchou, hein? On manque à rien. Moi, je pense que lorsqu'on vient au Seigneur, si Denis Arcand disait il y a 5 soirs par semaine de prière ici, on serait tous là. Les nouveaux sauvés seraient là. On est allés. Puis plus on avance, hop, on baisse à 4, on baisse à 3. Finalement, tu baisses un gros zéro. Hein? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est rendu comme ça? Et pourquoi est-ce qu'on se regarde devant le miroir et on dit, je comprends, mais je ne veux pas? Pourquoi? Hein? Voyez-vous, le miroir a besoin d'avoir une parole de Dieu. Au verset 23, on a cet homme-là qui se tient là. Maintenant, le mot miroir, on ne peut pas le traduire en français à partir de l'original. Mais moi, je vais vous le traduire. Alors, c'est un lapsus, c'est-à-dire, c'est pas. S'il y a quelqu'un d'officiel de la langue française ici, là, il ne sera pas d'accord avec moi, il a raison. Mais ça veut dire se miroirer. Alors, cherchez pas ce mot-là à l'additionnel, vous ne trouverez pas. Je l'ai inventé, c'est de mon cru. Hein? Mais dans l'original, le mot qui se regarde dans le miroir, là, c'est un verbe. Hein? C'est se miroirer. Il signifie ceci, le mot miroirer. Se regarder avec la possibilité, le pouvoir de discerner. Ça devient achalant, n'est-ce pas? Autrement dit, c'est pour ça que j'ai expliqué que le gars est capable de raisonner seulement. Parce que quand tu vas te regarder dans le miroir, mon frère, ma soeur, tu vas être capable, tu vas avoir la possibilité de discerner. Tu vas avoir la possibilité de comprendre. Tu ne pourras pas dire « je ne comprends pas ». Le mot qu'il y a là, avec le style d'homme qu'il y a là, eh bien, c'est exactement ça. Voyez-vous, j'ai dit tantôt, habituellement, un homme, qui se regarde dans le miroir, il se regarde juste le visage, hein? Petit miroir, il se regarde dans le visage. Mais mon frère, ma soeur, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça prend un grand miroir. Le miroir de l'irène. Wow, je viens de faire un jeu de mots, chérie. J'avais jamais dit ça. Miroir de Mireille. Hey. Ça prend miroir de Mireille. Pourquoi? Mon frère, on doit aller profond. Mon frère, on doit regarder dans notre cœur. Parce que le visage ne représente que le symptôme de la maladie qui affecte mon cœur. Est-ce qu'on comprend? Le visage ne représente que le symptôme de la maladie qui affecte mon cœur. Au verset 24 qu'on a lu, ça indique que celui qui écoute, qu'est-ce qu'il fait celui qui écoute au verset 24? Il ne demeure pas longtemps, hein? Il s'en va, hein? C'est ça qu'on a lu, c'est ça qu'on a encore dans le même texte. Et après s'être regardé, il s'en va. Puis plus que ça, après qu'il est parti, qu'est-ce qui arrive? On nous dit le verset 24, il oublie ce qu'il était. Et vous remarquez que dans le texte qu'on a devant nous, il y a deux fois le mot « regarder ». Ça veut dire que si Jacques utilise deux fois le mot « regarder », Jacques est en train de nous dire que le monsieur, il comprend. Mais il s'en va en comprenant. Il ne peut pas dire qu'il ne comprend pas. Il comprend. Il s'en va en comprenant. Mais il ne désire absolument pas recevoir un traitement pour son diagnostic. Il y a un problème de cœur. Il n'en veut pas de traitement. Il s'en va, je dirais, loin. Il désire absolument pas recevoir un traitement pour son diagnostic. Il veut pas. Le miroir de la parole de Dieu ne l'intéresse pas. Il ne désire pas savoir qui il est. Trouvez-vous ça intelligent, ça? Pensez-y. Est-ce qu'on trouve ça intelligent, les frères? Moi, le premier. Pensons-y. J'insiste. Il se regarde dans le miroir et il ne désire même pas savoir s'il est sale ou taché. L'exemple que j'ai donné au début. Un déficient intellectuel va se regarder dans le miroir. Il a plein de boue dans le visage, puis il ne pensera même pas qu'il est sale, puis il ne pensera même pas à l'enlever la tâche. Et ici, c'est exactement la même chose. Il ne désire même pas savoir s'il est sale ou taché. La logique, ce serait quoi? Qu'il se nettoie, tu es d'accord avec moi? La logique serait qu'il se nettoie, ou qu'il sache au moins qu'il faut qu'il se nettoie. C'est exactement ce que Dieu s'attend de toi et moi. Qu'on se regarde et qu'on se nettoie. Pas qu'on ignore. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il va nous pardonner. On sait qu'il va nettoyer notre souillure. On sait qu'il va nettoyer notre péché. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai un Dieu gracieux et compatissant. Wow! J'ai un Dieu, j'ai un papa compatissant, j'ai un papa miséricordieux. Jamais ils vont me dire de m'en aller. Jamais ils vont me dire d'attendre. Jamais ils vont me dire prends le numéro, attends ton dos. Jamais! Alors pourquoi est-ce que je ne veux pas reconnaître devant le miroir que j'ai des choses à régler? Mes frères, la seule manière pour qu'une personne se connaisse vraiment elle-même, c'est de se regarder dans le miroir de la bonne parole de Dieu. Et qui aime ça, se regarder dans le miroir de la bonne parole de Dieu? Qui aime ça? Vous êtes tout honnête. Personne. On n'aime pas ça. Qui aime ça? Quand on enseigne en avant des fois, vous savez que la personne la mieux placée, votre demi va être d'accord avec moi, je présume, la personne la mieux placée pour critiquer le message, c'est qui vous pensez? Dis-le. Pardon? Non. Ah non? Qui? Ton épouse. Oh, yes! Aimes-tu ça? Non, j'aime pas ça. Aimes-tu ça, moi? C'est ça, Denis, je suis vraiment toi. Moi, j'aime pas ça. J'ai même, à un moment donné, et ça, Mireille, elle s'en rappelle pas, je suis content, je suis heureux de ça. J'ai même demandé à Mireille, j'en reste sur votre chemin, tu sais pas que tu t'adresses à qui, Mireille? Ben oui, elle critique un message un dimanche matin, puis Mireille est très honnête, donc, puis elle critique de la bonne façon. Est-ce qu'on aime ça? Qui aime se regarder dans le miroir de la bonne parole de Dieu? Surtout que la parole de Dieu, on sait une chose, elle est divinement inspirée, puis elle est itinérante. Autrement dit, elle ne peut pas se tromper. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Alors, c'est gênant, hein, de se regarder dans un miroir qui s'appelle la parole de Dieu, et que je sais que le miroir qu'il y a là, il est itinérant, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas faire d'erreur, il s'en fout. C'est gênant, hein? Mais c'est ça, exactement ça. Ça ici. Vois-tu, mon ami, se reconnaître soi-même, c'est la chose la plus difficile à faire et la plus difficile à admettre. Lorsque tu es malade, habituellement, tu vas voir le médecin. Hein? Tu demandes un diagnostic au médecin. Tu vas demander un remède. Tu vas demander une façon de guérir. Mais mes frères et mes sœurs, demandons au grand médecin, un grand G et un grand M, le courage de nous regarder dans le miroir de la bonne parole de Dieu pour examiner notre extérieur et examiner notre intérieur. C'est ça, mes amis, qu'il faut faire. On est malade. Voyez-vous, on a découvert que celui qui écoute et qui se tient devant le miroir de la parole de Dieu se rappelle son visage à la naissance, à la Genèse, n'est-ce pas? Il se souvient des jours de sa nouvelle naissance en Jésus-Christ. Il se souvient comment il était heureux et il se souvient de son premier amour.
Vous souvenez-vous de la première amour? Mon frère, tu souviens-tu de la première femme que tu as eue dans ta vie? Souviens-tu de celle qui est devenue ton épouse? Ton premier amour, hein? Il n'y a rien que tu ne faisais pas pour elle, hein? Moi, je marchais en béquille avec une patte dans le plat pour aller avoir. Fou, hein? Pas mal fou, mais c'est ça. C'est là, 50 quelques années, là.
Mais, juste pour vous dire, est-ce qu'on... N'oublions pas, hein? Est-ce qu'on veut... Comment on est heureux, hein? Il se souvient également, hein? Le gars qui est dans le miroir, là, ça c'est toi et moi également, on se souvient comment il était obéissant. Alors moi, en tout cas, les premières années, j'étais sauvé. Waouh, waouh, waouh. Ça, il m'a demandé n'importe quoi. Je sais quand même, obéissant. Il me semble qu'en avançant, je suis moins porté à obéir, tu sais. Mon père devient tellement familier avec moi, la parole de Dieu est tellement familière avec moi. Oh, c'est pas si grand, hein? Maintenant, voyez-vous, mes frères, pourquoi faire est-ce qu'on évite de se tenir devant le miroir de la bonne parole de Dieu? Savez-vous pourquoi faire qu'on évite de se tenir devant le miroir de la bonne parole de Dieu? Parce qu'on ne veut pas se rappeler combien nous étions amoureux de la parole de Dieu. On ne veut pas se rappeler ça. Ça ne nous intéresse pas. On était amoureux fous de la parole de Dieu. Et je dirais, comment on aimait obéir au début? C'est la raison que je suis intéressé à regarder dans le miroir la parole de Dieu. Voyez-vous, on aspire à ça aujourd'hui. Je pense qu'on continue à aspirer à ça. Mais on n'est pas prêt à payer le prix. On n'est pas prêt à... On a d'autres occupations. Je vais aller à l'église si j'ai rien à faire. L'Église n'a pas d'importance dans ma vie. Mes amis, mes frères et sœurs, n'oublions pas notre premier amour. C'est ça que Jacques est en train de nous dire ce matin avec cet homme qui est devant le miroir. Cet homme qui comprend. Tu ne peux pas dire que tu ne comprends pas, mon frère, ma sœur. Et si on veut se rappeler notre premier amour, savez-vous ce qui va arriver? On n'oubliera pas les bénédictions qui en découlait lorsque toi et moi, on obéissait à la parole de Dieu. On obéissait au miroir de la bonne parole de Dieu. Des bénédictions, une n'attend pas une autre. On ne veut pas se rappeler ça. On ne veut pas se rappeler ça. Qu'on puisse, les frères et sœurs, et ça, c'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour mon épouse, c'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin ici, qu'on puisse retrouver ce premier amour. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les temps où nous vivons, il est exactement minuit moins quart à l'horloge de Dieu. Et si le Seigneur avait décidé d'entrer son église ce matin pendant la prédication, est-ce qu'il y en a qui seraient demeurés assis sur leur banc? Posons la question. Les frères et sœurs, je vous en supplie. Pour moi, pour Mireille, pour Denis, pour Joanne et pour chacun d'entre vous, pour Mathieu, que je ne sais plus son nom, mais là, Mathieu en arrière et sa douce épouse, là, ensemble douce en tout cas. Mais revenons à notre premier amour. Revenons à notre premier amour. C'est le seul message que Jacques veut nous passer ce matin lorsqu'on se regarde dans le miroir. Quel miroir? Le miroir, la bonne parole de Dieu. Mais pour Père éternel, à nouveau, on te remercie. On te loue parce que tu nous aimes le premier. On veut te louer parce que c'est toi qui avais écrit notre nom dans le livre de vie avant la fondation du monde. c'est pas nous qui sommes allés à toi, c'est toi qui es venu à nous. Et combien, Papa éternel, on veut te louer, te rendre grâce, t'adorer, te donner toute la gloire et la louange parce que tu nous as aimés le premier. Et Papa éternel, avec les années, et combien on se regarde dans le miroir et on s'en va. On ne veut pas entendre ce que tu nous as dit. On veut oublier ce que tu nous as dit. Et pourtant, on ne peut pas l'oublier. Parce qu'on est des hommes saints, saints d'esprit, on comprend. Tu nous donnes des enseignants, tu nous donnes des livres, tu nous donnes des cours. Papa éternel, on ne peut pas plaider l'ignorance. Mais viens faire ça en chacun de nous, les hommes, les femmes. On peut se regarder dans le miroir et dire, wow, je veux apprendre, je veux décortiquer, je veux revenir à mon premier amour, je veux obéir à nouveau comme j'obéissais, je veux être heureux, joyeux. Seigneur Jésus, je t'en supplie, fais ça avec chacun d'entre nous sans exception ce matin. Et encore une fois, merci surtout pour ton salut parfait à la croix, ce qu'on s'est rappelé tantôt avec la table du Seigneur. Ton sang a coulé. Tes mains ont été percées, tes pieds ont été percés, ton côté a été percé. Tout ça parce que tu nous as aimé le premier. Donc, viens nous ramener, viens nous rappeler de revenir à ce premier amour et donne-nous ce zèle et cette obéissance que tu nous as donnée. Encore une fois, en ton beau, précieux, magnifique nom, je t'en prie, Papa. Amen.